International, Annie Gasnier.
Roussia Dobridienne, bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission juste avant un nouveau match de Coupe du Monde. Nous sommes en période de match avec beaucoup donc de rendez-vous sur les pelouses de Russie. Et aujourd'hui, une nouvelle victoire pour le Portugal qui a dompté les Lions de l'Atlas sur le score de 1-0. But signé Cristiano Ronaldo, évidemment. CR7 a déjà 4 buts dans cette compétition et les Portugais sont proches des 8e de finale. Le Maroc, lui, s'approche de l'élimination, pas encore faite mathématiquement, malgré ces 2 défaites, des Lions qui peuvent avoir des regrets sur ce match et nous en parlerons. Espagne et Uruguay de retour sur les pelouses russes. La Roja face à l'Iran, la championne d'Asie qui avait surpris et piégé les Marocains au premier match. Et puis la Céleste face à la très faible Arabie Saoudite, martyrisée par les Russes lors du match d'ouverture. El Matador et El Pistolero sont très attendus. Ils doivent marquer, aimeraient en tout cas les supporters de la Céleste uruguayenne. La Russie au rythme du ballon rond au fil des buts inscrits à la Zbornaïa. Une ambiance chaleureuse et festive se répand à travers l'immensité russe. Une confraternisation entre habitants et supporters étrangers qui s'est transformée en un tsunami de joie enfantine, écrivent nos confrères à Moscou. Le mondial aurait inversé le rideau de fer. La température du côté de Moscou, nous la prendrons avec le correspondant de RFI, Daniel Vallaud. Et pour évoquer ces sujets, un revenant dans Radio Foot International, ancien joueur du Paris Saint-Germain, Eric Rabé-Sandratana, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Et re-bienvenue Rabé.
Merci.
Dans notre émission. Philippe Doucet est là aussi, bonjour.
Bonjour
Philippe,
Madame Annie.
Avant de partir vers la Russie,
il
nous visite encore dans notre studio ici à RFI. Et puis Xavier Barré, bonjour Xavier.
Bonjour Annie.
Radio Foot, c'est parti.
Direction la Russie.
En faveur du Portugal et de Bernardo Silva. Petit échange à la rémoise. Attention, le but! L'ouverture du score, Cristiano Ronaldo à la réception de ce corner à la rémoise. Et Cristiano Ronaldo qui va célébrer tout près du poteau de corner. L'ouverture du score pour le Portugal à la 3e minute de jeu. C'est allé très très vite. Le Maroc est déjà mené.
Ronaldo,
le premier but donc de ce match survenu à la 6e minute. Il n'y en aura pas d'autres dans ce Portugal-Maroc que vous avez pu suivre sur RFI avec Christophe Jousset et Eric Mabrut à Moscou. Et la lumière fut donc la lumière portugaise avec dans cette Coupe du Monde Cristiano Ronaldo qui atteint déjà 4 buts. Nous allons prendre tout de suite la direction du Portugal, du nord du Portugal, même dans la petite ville côtière de Viana do Castelo, c'est à 60 km au nord de Porto et c'est là que se trouve l'un des journalistes de RFI, Marco Martins. Bonjour Marco.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Alors racontez-nous Marco Martins, comment vit-on un match du côté de Viana do Castelo, un nouveau match de Coupe du Monde avec le Portugal?
C'est un peu comme dans tout le pays, c'est-à-dire que le pays s'arrête un peu de vivre. On va dire que dès que le match est terminé, la vie a repris, les gens ont repris normalement leurs activités. Mais pendant 90 minutes, c'est vrai que le Portugal s'est un peu arrêté, même ceux qui travaillent, parce que c'est vrai que c'est en pleine semaine, c'est un horaire qui n'est peut-être pas le meilleur. Mais les gens avaient toujours un petit œil sur le match, que ce soit sur un écran de télé, sur leur smartphone, même par des amis qui envoient des messages à d'autres en disant « Écoute, il y a déjà 1-0 pour le Portugal, en train de gagner ». Donc en fait, tout le monde est attentif au résultat du Portugal. Et à la fois, je peux vous dire que c'était quand même un vrai ouf de soulagement pour tout le monde. Même si on est habitué depuis l'Euro 2016, à ce genre de match un peu difficile où on gagne vraiment avec à peine un petit but.
Ouais, en finale de l'Euro 2016, ce petit but a suffi, n'est-ce pas? Marco, qu'espèrent le Portugal et les Portugais de cette compétition? Est-ce qu'ils y croient à cette équipe, à une équipe finalement quand même renouvelée depuis l'Euro?
Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs qui ont émergé, surtout dans le 11 initial. On le voit avec Gonçalo Guedes, avec Bernardo Silva, pour citer ceux qui sont passés par le championnat français. Après, il y a aussi Bruno Fernandes qui est rentré en deuxième mi-temps, le jeune Gelson Martins qui était au Sporting et qui, d'ailleurs, est suivi par Arsenal et par la Lazio Rome. C'est vrai que c'est une équipe qui est renouvelée. Pour la meilleure partie des Portugais, on va dire que cette équipe a peut-être plus de chances, plus d'options que à l'Euro 2016. Mais ce qui inquiète le plus, c'est cette défense vieillissante au centre, et puis peut-être un peu trop tendre sur les contacts sur les côtés, avec Rafael Guerreiro et Cédric. Elle a été longtemps critiquée, cette défense. Elle a pris 3 buts face à l'Espagne. Mais aujourd'hui, au final, même si elle a énormément souffert, eh bien, c'est un 0. Et aucun but encaissé par cette défense. Et vraiment, c'est aussi un ouf de soulagement, en se disant, bon, bah, elle est vieillissante, elle souffre, mais comme à l'Euro, elle résiste, elle tient, et ça pourrait peut-être faire nos affaires. Et on s'empêche presque de rêver quand même au Portugal, parce qu'on suit, peut-être comme les paroles d'un prêtre, j'ai envie de dire, mais les paroles de Fernando Santos. Mmh. Fernando Santos, comme à l'Euro, dit, écoutez, on va faire match après match, on va essayer de gagner tous les matchs, et puis on verra à la fin. Ça avait marché en 2016, donc les gens ici se disent, bah pourquoi pas, on va continuer comme ça, on va y aller match après match, et puis qui sait si on n'a pas cette petite étoile de la chance, qui s'appellerait Cristiano Ronaldo, parce qu'on l'a jamais vu aussi en forme que ça, même pour les Portugais, et surtout lors d'un mondial. Donc on se dit, pourquoi pas cette année, que ce soit à nouveau l'année du Portugal.
Eh bien on verra ça pour les champions d'Europe en titre. Merci beaucoup Marco Martins d'avoir été en direct avec nous du nord du Portugal, et bonne continuation là-bas dans votre pays. Ciao.
Merci. Obrigado. Merci. Forza Portugal.
Forza Portugal, claro. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, Eric Rabessandratana?
Bah, j'ai pensé surtout qu'il y avait une grosse frustration des Portugais, parce qu'il y a quand même eu plus d'occasions
des Marocains
des Marocains pardon parce qu'il y a eu plus d'occasions du côté marocain.
Oui, ils nous disaient ouf et on comprend pourquoi.
À l'image de Ronaldo qui a joué 5 minutes et qui a suffi pour qu'il fasse la différence, mais c'est vrai que les Marocains vont repartir avec des regrets, parce que là il y avait largement la place pour battre cette équipe du Portugal, et puis forcément sur ce match contre l'Iran, où là c'est pas des regrets, ils vont pleurer longtemps après ce match.
Eh bien justement, on va rejoindre tout de suite Moscou. Eric Mamrud, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Alors Eric, vous qui avez décrit et raconté ce match, retransmis ce match sur l'antenne de RFI, on parle des regrets du Maroc, puisque les Portugais dans leur camp sont évidemment heureux du résultat et des 3 points, ça leur en fait 4 désormais dans leur groupe. Est-ce que vous pensez que ces Marocains, ils sont passés un peu près de l'égalisation et finalement qu'ils ont loupé quelque chose?
Oui, forcément, ils ont dominé l'ensemble de la partie, hein. 53% de possession de balles, 4 tirs cadrés à 2, 16 tirs au total contre 10 au Portugais. Les statistiques sont en leur faveur, le nombre d'occasions également, surtout en deuxième période, ils l'ont totalement dominé. Les Portugais n'ont quasiment pas existé. Belanda a eu plusieurs occasions, notamment celle à la 57e minute. Sa tête a sollicité Rui Patricio, qui a sauvé son camp d'une magnifique parade. Benassia s'est également mis à plusieurs reprises, mais il a loupé le cadre. Il y a eu beaucoup d'occasions, beaucoup de générosité, un beau jeu plutôt pratiqué par le Maroc, très très généreux, mais ce Maroc aura eu le tort de commettre une erreur fatale, une faute sans doute d'inexpérience à ce niveau. Comment peut-on laisser Cristiano Ronaldo seul dès la 4e minute, à la première véritable occasion portugaise, et le laisser marquer? Il était libre de tout marquage sur la réception de ce corner, c'est pas possible. Le Maroc se prend un but contre l'Iran à la toute dernière seconde et se prend un but en tout début de match face au Portugal. Ça peut pas coller, quoi. Et après, ils ont couru comme après des damnés derrière le score, mais le mal était fait. Sont des erreurs fatales à ce niveau.
Bon, bah, c'est peut-être une manière d'apprendre aussi. Écoutons le sélectionneur de cette équipe des Lions de l'Atlas, Hervé Renard, qui s'exprimait sur la chaîne de télévision beIN Sport, qui retransmet le match.
Il faut féliciter tout le public et puis tous les joueurs, parce qu'ils ont été fantastiques. Et juste regardez le corner, le numéro 3. Et puis tout est dit.
Et puis tout est dit, Philippe Doucet, et c'est ce que nous confirme évidemment Éric Mamrut, c'est-à-dire on entendait Christophe Jousset parler de ce corner à la Rémoise, c'est quelque chose qu'on connaît évidemment dans les écoles de football, et puis là c'est l'erreur qui ne pardonne pas.
Oui, mais je pense qu'il faisait allusion à autre chose, à mon avis Hervé Renard, s'il parle du numéro 3, c'est-à-dire Pep, je pense qu'il veut faire allusion, il a plusieurs fois réclamé le VAR, l'utilisation de la vidéo,
il s'est beaucoup énervé, il a plus de voix,
il a failli, il était limite d'ailleurs, je pense, de peut-être d'être exclu parce qu'il a, il a plusieurs fois. Donc, je pense qu'il faisait allusion plutôt à ça qu'au, à ce corner qui est bon. Et moi, j'aime bien à la télé, j'entends souvent des commentateurs qui disent qu'un avant-centre à l'arrivée est étrangement seul. Mais en fait, Michel Denisot disait toujours que un Cristiano Ronaldo, il travaille toute la semaine pour être débarqué à la fin d'une action. Et s'il travaille toute la semaine, c'est aussi pour à l'arrivée être seul. C'est pas étrangement, c'est du boulot, quoi. Pour arriver, c'est son métier.
Et il travaille avec ses coéquipiers. Ouais. Et ça, les chaînes de télévision espagnoles, notamment Le Monde, très bien, sur les corners au Real Madrid, il y en a un qui vient faire écran pour protéger Sergio Ramos ou pour protéger Pep, en l'occurrence, qui avant jouait avec Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Donc, effectivement, moi j'ai les images sous les yeux, mais on voit pas bien les numéros. Mais il est possible que sur cette action-là, effectivement, c'est un écran. Oui, je pense que c'est ça, moi. C'est un écran qui libère l'espace pour Cristiano Ronaldo qui vient s'engouffrer dedans. Donc, c'est des techniques travaillées à l'entraînement, des tactiques travaillées à l'entraînement. D'ailleurs, le corner à deux nous a vraiment surpris, la façon dont ils l'ont tiré, mais à l'arrivée, ça fait but. Donc, c'est aussi la récompense du travail.
Ouais, mais Eric, c'est surtout une faute de concentration et ça rejoint un petit peu cette erreur qu'ils font dans les arrêts de jeu contre l'Iran, et là ils recommencent au début du match. Tout part d'une grosse concentration dans ces moments-là et là ils sont clairement pas au marquage.
De toute façon,
ça coûte cher à la fin.
11 buts concédés par les équipes africaines, 9 sur coup de pied arrêté. Et quand je dis coup de pied arrêté, c'est pas des pénaltys, c'est des coups de pied arrêtés de ce style-là, quoi, des corners, beaucoup de corners, beaucoup de coups de pied, de coups francs indirects et de situations où, bon, alors la Tunisie a été carrément dominée très largement par l'Angleterre dans ce domaine-là, mais le Maroc aussi a montré des faiblesses, l'Égypte également. Enfin, il y a quand même c'est un des soucis qu'ont rencontré les équipes africaines, alors que le Maroc a quand même, à l'arrivée, a dominé tout le match pour rien.
Eric Mamrut, cette équipe du Maroc, on se souvient de cette défaite dans les dernières secondes qui on sentait que quelque chose leur avait échappé aux joueurs. On se souvient qu'ils étaient en larmes et couchés sur la pelouse. Ils étaient sans doute venus avec un autre état d'esprit, mais ils ne sont pas encore éliminés, mais malheureusement, pas loin.
Si, ils sont éliminés. Prenez le classement dans tous les sens, c'est fini pour eux, hein, parce qu'il y aura toujours deux équipes au-dessus d'eux, même s'ils arrivaient à battre l'Espagne lundi prochain à Kaliningrad. C'est fini avec 0 points, là. Et leur mondial est d'ores et déjà terminé. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. C'est une équipe qui promettait beaucoup, qui nous a montré quand même de belles choses. Ça s'est joué à chaque fois à pas grand chose. Il y a eu l'inexpérience, c'est vrai, mais aujourd'hui, eh bien, malgré ce coup de massue dès la 4e minute, eh bien, elle a continué, elle a joué, elle a pris les choses en main, elle ne s'est jamais désunie, et ça, c'est à mettre à son actif. C'est pour ça qu'Hervé Renard est plutôt satisfait de ses joueurs, c'est qu'ils ont véritablement tout donné. Après, avec leurs moyens, avec un manque d'efficacité, un manque de percussion offensive, surtout dans la surface de réparation. Mais bon, ils ont montré en tout cas beaucoup plus de choses qu'une équipe comme la Tunisie, par exemple, qui avait totalement pris l'eau
face à l'Angleterre
la dernière fois. Donc, une belle image montrée par le Maroc, mais qui n'aura pas réussi pour l'instant à marquer le moindre but.
Ouais. Philippe Doucet, peut-être une chose quand même, justement, cette équipe marocaine, si elle peut avoir des regrets, sans doute sur ce match de ne pas avoir égalisé, mais évidemment, c'est sur l'ensemble sur l'autre match, tout s'accumule malheureusement.
Non, l'immense regret, c'est que le Maroc doit gagner contre l'Iran, je dirais sur les 25 premières minutes, il doit y avoir déjà 2 buts d'écart. Alors après, on peut toujours imaginer qu'il se passe autre chose, mais globalement, il est évident que le Maroc aurait dû gagner ce match-là. Mais en même temps, quand on ne marque aucun but contre l'Iran et aucun but contre le Portugal, malgré une telle domination, c'est qu'évidemment, dans les 30 derniers mètres, il y a des faiblesses. Il y a des joueurs très créatifs comme Ziyech, comme Belanda, Amrabat, qui a été remarquable aujourd'hui. il n'y a pas d'avancante peut-être à ce degré de à ce niveau, mais même les préparateurs, que ce soit Ziyech, Belanda, etc., sont des super joueurs qu'on admire, qu'on adore voir jouer. C'est pas des killers, quoi. Ça tue pas, ça marque pas de but, c'est pas assez efficace Belanda, pour ce niveau-là. Ouais. Voilà. C'est des très beaux joueurs, mais pour ce niveau-là, ça ne passe pas.
Xavier?
Belanda a pas été très loin aujourd'hui, mais moi, ce que je disais hier soir, effectivement, dans le débat avec Nabil Djellit, je disais le problème du Maroc, c'est qu'il a pas d'avant-centre. Donc aujourd'hui, il avait titularisé Boutaïb.
Mais c'est un peu plus que ça, parce que Boutaïb n'a pas été mauvais.
Ouais,
mais même dans la préparation, les dernières passes n'arrivent pas. C'est pas suffisant. Ouais,
on sent qu'il y a trop de déchets par rapport au niveau de la compétition. Il y a trop de déchets. C'est pas possible de rater autant de choses pour espérer autre chose que cette élimination.
Le Maroc s'est-il vu trop beau?
Je pense pas.
Ou l'a-t-on vu trop beau alors? Parce qu'on se disait peut-être oui. Dans ce groupe, on savait que c'était un groupe extrêmement difficile pour eux. On pensait que ça serait peut-être qu'ils pourraient essayer de s'en sortir.
Non, mais nous, avec notre prisme africain, il est normal que le Maroc, qui est quand même l'équipe africaine qui nous a fait la plus belle impression depuis une bonne année, au même titre que le Sénégal, et même peut-être le Maroc encore plus, sans doute un peu plus parfait encore que le Sénégal, il est tout à fait normal qu'on ait tous imaginé que le Maroc avait sa chance. Et d'ailleurs, le scénario, on le voit bien, le scénario, c'était d'arriver avec 3 points contre l'Iran, et vous commenciez le match contre le Portugal, au lieu que les Portugais calculent comme ils l'ont fait pendant 90 minutes, ça aurait été quand même très très différent d'attaquer le match à 3 points et le Portugal à 1 point.
Bien sûr.
Là, tout d'un coup, c'est le Portugal qui devait gagner. Et dans la manière dont joue le Portugal, je suis pas certain qu'ils auraient été si performants que ça. Ils auraient peut-être gagné quand même, peut-être qu'on a effectivement un peu... estimé un peu trop vite que le Maroc pouvait sortir, mais de ce groupe qui est effectivement infernal. Mais franchement, le Maroc avait des qualités à faire valoir, et je crois pas qu'il les confirme. Il les a confirmées, je pense, sur le terrain dans ces deux matchs.
Eric?
Ouais, mais je crois que c'est ce match de l'Iran qui plombe tous les plans du Maroc, parce que ils avaient même pas envisagé de pouvoir perdre contre l'Iran, et le scénario catastrophe arrive, et après, pour vous remobiliser contre le Portugal, et en sachant qu'il y a l'Espagne qui arrive derrière, ça devient très compliqué.
Le plus gros regret, pour moi, c'est la deuxième période contre l'Iran. Parce que la première, grosse domination, on les sent très au-dessus.
Mais
déjà,
pas.
Sur la fin de la première période, ils se livrent trop, ils commencent à laisser des contres à l'Iran. Ce qui prouve que déjà, ils sont dans un espèce de mode d'urgence. Il faut marquer absolument, on est plus fort, on va les écraser, etc. Et la deuxième période, je trouve qu'ils perdent le fil en s'énervant surtout.
Ils sont précipités.
En étant là, peut-être un petit peu prétentieux par moment, en se croyant tellement supérieur qu'en étant sûr que ça marcherait.
Eric Mamrud, pour terminer, c'est donc la première équipe africaine à quitter le mondial de Russie.
Et l'Égypte hier est éliminée aussi.
Non.
Alors mathématiquement, dit-on, non.
Pas mathématiquement, mais enfin, ils sont éliminés dans 2 heures.
Ils sont mal embarqués quand même.
Dans 2h30, ils sont éliminés.
Ouais, bon, après, que ce soit la première, la deuxième, ou pas, le résultat est à peu près le même. C'est décevant, mais il faut dire que ce groupe était très très compliqué. C'est vrai que jouer un premier match contre l'Iran, c'est là que tout se joue.
Faut être
présent au rendez-vous. Enfin, Hervé Renard est un grand entraîneur, mais comme ses joueurs, il n'avait jamais joué de Coupe du Monde avant. Peut-être qu'il lui a manqué aussi un petit poil d'expérience. Ça se joue pas à grand chose, mais quand c'est le haut niveau. Si je devais parodier les footballeurs, une erreur se paie cash.
C'est ça.
Et là, à l'arrivée, deux erreurs, deux défaites 1-0, ça ne se voit pas grand-chose, quoi. Mais
ouais.
C'est comme ça. Il faut dire que le Portugal, quand même, c'est costaud. Ils savent faire tout ça. Ils n'ont pas peur, quoi. Le Portugal, ils connaissent la formule. Ils ont gagné l'Euro en jouant pas très très bien, en faisant des matchs nuls, en gagnant 1-0 la finale. Ce que vous voulez, c'est que c'est costaud, c'est du bloc, quoi. Il faut rien rater en face d'eux.
Ouais, et vous l'avez entendu peut-être en début d'émission, hein, du côté du Portugal, évidemment. On prend aussi match après match, mais on est soulagé. Eric, je ne sais pas si votre tribune de presse vous permettait de voir un spectateur un peu particulier. particulier dans le stade aujourd'hui, mais il y avait pas très loin Sepp Blatter, l'ancien président de la FIFA.
Alors, on l'a pas vu, mais on savait qu'il était là, mais on l'a pas vu.
Oui, alors il dit qu'il n'est pas là pour commenter ni pour faire de remarques, mais en tout cas lui qui a été déchu pour soupçon de corruption, il se promène dans le grand événement qu'il a contribué d'ailleurs à attribuer à la Russie, puisqu'à l'époque il était encore président de la FIFA. Il est l'invité spécial de son ami Vladimir Poutine, et malgré la suspension de toute activité liée au football, eh bien lui, il se promène, mais il vous évite, vous, mais il évite aussi Gianni Infantino, et il ira voir Brésil-Costa Rica. Merci beaucoup Eric Mamrut, bonne continuation en Russie.
Avec plaisir, à bientôt.
À bientôt. Des bruits de supporters à l'est de Moscou, dans la ville de Kazan, qui accueillera eh bien l'autre rencontre de ce groupe C, les supporters iraniens qui ont déjà investi les rues de la ville du Kazakhstan, puisque ce soir à 20h se disputera Iran et Espagne. Alors, Iran-Espagne, les Iraniens ont, on vient de le dire, remporté incroyablement, mais en insistant, les champions d'Asie, ils ont battu les Marocains, et là ils se retrouvent face aux Espagnols. Les Espagnols, eux, vous vous en souvenez, dans ce match incroyable, avaient dû se contenter du match nul 3-3 contre le Portugal. Il faut faire mieux, sans doute, ce soir. Et c'est ce que dit à demi-mot Iniesta. Iniesta qui parle surtout du groupe espagnol, parce qu'on le sait, ce groupe a changé de sélectionneur quelques heures avant l'entrée dans la compétition.
Porque somos la gran mayoría jugadores que...
Pour la plupart, on joue ensemble depuis de nombreuses années. On se connaît très bien et je pense qu'on est un groupe et qu'on a une confiance aveugle les uns envers les autres. Et on a tous le même objectif. On a un rêve sur lequel on est tous concentrés. On veut se focaliser sur chaque rencontre. Contre l'Iran, c'est comme une finale. Si on gagne, cela nous donnera un avantage dans notre groupe.
Alors, le groupe vit bien, c'est rassurant, mais c'est vrai qu'ils se connaissent depuis très longtemps. Xavier Barret, on a vu cette Espagne buter quand même sur l'équipe du Portugal, mais dans un match où, évidemment, Cristiano Ronaldo, une fois de plus, était extraordinaire. Qu'attendre de cette équipe d'Espagne aujourd'hui ?
Moi, je l'ai trouvé dès le premier match très en jambes et très compétitif. Il faut rappeler quand même que face au Portugal, ils ont été menés deux fois au score. Mm-hmm. Et ils sont à chaque fois revenus et ils ont même pris l'avantage. Exact. Et le seul reproche qu'on peut leur faire, c'est d'avoir concédé ce coup franc à Cristiano Ronaldo à quelques secondes de la fin, qui a permis au Portugal d'arracher le nul. Mais regardez tous les résultats depuis le début de cette Coupe du Monde, je crois que c'est la seule équipe qui a été capable d'inverser un score. Et ça confirme bien toutes les qualités de cette formation espagnole. Elle a vraiment, malgré le changement d'entraîneur et de staff, parce que Julen Lopetegui est parti avec ses adjoints, donc il a fallu reconstituer une équipe technique rapidement. Autour de Fernando Hierro, oui. Donc, malgré ces aléas un peu assez incroyables, eh bien, il y a une équipe tellement forte et des joueurs qui sont tellement sûrs de leur football parce qu'ils le pratiquent ensemble depuis des générations, enfin ou en tout cas des promotions différentes dans les équipes de jeunes.
Ils ont grandi
en
ensemble et ils ont amélioré le style ensemble. Ils ont été champions ensemble pour certains.
Ils ont été champions dans différentes catégories d'âge, notamment en espoir en 2011 et en 2013. Et donc c'est une équipe qui a énormément de certitudes. Moi, je vous cache pas que de toutes les équipes que j'ai vues au premier tour, c'est celle qui, malgré un résultat effectivement un petit peu défavorable, m'a fait la plus forte impression.
Ouais. Oui, défavorable, mais effectivement, face à un Portugal dans un grand jour. Eric Rabessandratana, comment voyez-vous cette rencontre et notamment cette Espagne ?
Bon, moi, j'ai du mal à croire que l'Espagne va tomber dans le piège de l'Iran. Non, mais c'est vrai. Là, je vous avouerai que, franchement, avec les, avec l'expérience.
Il y a des surprises, mais il y a des limites.
Là,
il y a un moment où ça s'arrête.
Ouais, c'est mesuré. Moi, sincèrement, je craignais déjà l'Espagne en pensant à la France, en me disant si la France rencontre l'Espagne avant la finale, j'avais du mal à croire que la France était capable de battre l'Espagne. Donc là, l'Iran, je vais être un peu moins inquiet pour l'Espagne et me dire que oui, ils ont tout à fait l'expérience. Et puis, c'est vrai que ce premier match a été quand même, je pense, le plus beau match de la Coupe du Monde à l'heure actuelle.
Ils
nous ont montré beaucoup de choses. Ça a été impressionnant quand même dans le jeu.
Impressionnant, même si ce soir, face à l'Iran, alors l'Iran a été un peu héroïque et a montré des choses bien face au Maroc. Mais ce soir, peut-être que face au jeu qui parfois est un peu étourdissant de l'Espagne, Philippe, ça sera peut-être difficile pour l'Iran.
Ça devrait être difficile pour l'Iran qui n'est pas habitué à ce rythme-là. On l'a vu d'ailleurs pas très loin d'exploser, cette équipe contre le Maroc qui a aussi des vertus et des grosses qualités dans le jeu et qui, en jouant très vite, a failli faire exploser l'Iran. Donc, on a des raisons de penser que l'Espagne peut le faire, mais bon, on va avoir un attaque-défense. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Ouais, ça, c'est sûr.
Il n'y a aucun doute là-dessus. Et il arrive de temps en temps, en Coupe de France, sur un coup de pied arrêté, sur un malentendu, il arrive parfois que l'équipe qui défend, l'équipe la plus faible, y arrive ou arrive à contrecarrer, parce que ils font un nul ce soir. Ils emmènent l'Espagne dans un drôle de tourment pour le dernier match. Donc, je pense que l'Iran n'a rien d'autre.
Ils ont rien à perdre.
Ils ont juste rien à perdre et tenter le coup en bétonnant comme ils peuvent.
Quand il n'y a pas de...
Et personne ne leur en voudra, parce que bon, voilà, c'est une question de niveau, il y a un moment.
Dans ce contexte très particulier, que peut-on imaginer, Xavier? Qui fait la compo de l'équipe?
De l'Espagne?
De l'Espagne.
Ben, c'est Fernando Hierro, qui va faire la compo. Mais forcément, il s'appuie sur les cadres. Il s'appuie sur Sergio Ramos d'abord, qui est le capitaine. Il s'appuie sur Andrés Iniesta, David Silva, Gérard Piqué, les joueurs qui sont là depuis longtemps et qui vont forcément, sur le terrain transcrire, cet héritage et ces consignes. Je pense que là où effectivement il peut y avoir éventuellement une déperdition dans le management de cette sélection espagnole, c'est s'il y a une situation de crise sur le terrain et qu'il faut prendre des décisions rapides. C'est en 2010, je crois que c'est contre le Chili, si je me souviens, je parle de tête là, j'ai pas vérifié avant l'émission, mais il y a un moment où l'Espagne bute et elle doit gagner pour se qualifier. Et c'est là que l'entraîneur de l'époque, c'était Del Bosque, fait rentrer le grand Llorente. Et le grand Llorente, c'était vraiment le 23e joueur. On comptait pas du tout sur lui. Il l'a fait rentrer juste pour forcer la décision, pour avoir un grand relayeur devant, puisqu'il jouait sans véritable numéro 9. Et ça fait basculer le match. Donc, est-ce que Fernando Hierro aura l'autorité pour imposer éventuellement un changement tactique par rapport à ce que savent faire les cadres sur le terrain? Ça, on sait pas encore. Mais peut-être que face à l'Iran, on aura d'ailleurs des premières explications à ce sujet.
Philippe?
Oui, de toute façon, oui. Enfin, Xavier a complètement raison. C'est effectivement, seule la situation de crise nous apprendra quelque chose. Si tout va bien pour l'Espagne, ils peuvent être champions du monde sans entraîneur. Hein, je veux dire,
ouais, c'est ça. C'est
vrai, vu la qualité du groupe, vu le fait que la compétition ne dure qu'un mois, un club c'est différent. Mmh. Il faut mettre au point des tactiques et autres. Mais là, l'Espagne ressemble à une équipe de club. Elle a un football qui est établi, qui est installé, qui marche depuis des années, que les joueurs maîtrisent totalement. S'il n'y a pas d'obstacle et que tout se passe bien, qu'ils enchaînent Iran, Maroc et qu'ils arrivent, ils peuvent aller très loin. Je dis pas que Hierro n'aura servi à rien, mais enfin, globalement, ils peuvent tout à fait être champion du monde sans entraîneur. Il y a plus d'une équipe qui a été champion du monde sans entraîneur.
ou des fois des sélectionneurs.
On n'en citera aucune, même si ça ne concerne pas la France. C'est pas en français, donc ça ne n'ira pas plus loin. Mais il y a quelques sélections. On sait très bien que l'entraîneur n'a pas eu un impact majeur. Je pense que il n'est pas un secret de dire que Matthäus avait plus d'impact que Beckenbauer sur l'Allemagne de 90. Mmh. Et voilà, bon, on peut dire ça sur plus d'un entraîneur, franchement. Coupe du monde, c'est possible.
Ouais, c'est très intéressant. Eric?
De toute façon, je pense que Hierro peut pas arriver et chambouler tout ce qui a été fait avant. Il est obligé de suivre une marche qui existe déjà et il est obligé de s'adapter au groupe. Alors forcément, il devra imposer quelque chose au fur et à mesure, mais je sais même pas s'il a le temps là pour l'instant. Il est plutôt dans l'adaptation et de se dire bon voilà, je regarde comment ça se passe. Ils ont l'habitude de jouer ensemble, ils ont cette chance.
Puis peut-être que son aura quand même, ça a été un grand bien joueur, sûr, notamment du Real Madrid, donc peut-être que son aura aussi aide à faire passer, à discuter, disons, avec les grands joueurs.
Je pense qu'il a le respect des joueurs, donc déjà c'est déjà beaucoup. Mm. Et puis après voilà, il a l'expérience, il a une équipe qui tourne bien, c'est déjà plus facile pour arriver dans ces conditions.
Il a pris Marchena aussi comme adjoint qui est venu de Séville, qui est un type qui est prometteur dans le métier, qui est installé, qui est adjoint à Séville, hein. C'est,
oui,
c'est pas de bêtises.
Surtout Carlos Marchena, c'était
il était du groupe.
Hein. Oui, il était de l'équipe de 2008 qui a été championne d'Europe et qui a mis fin à cette malédiction espagnole. Et surtout, l'équipe d'Espagne n'a jamais perdu avec lui.
Il est talisman.
Je crois qu'il a fait 58 matchs sans défaite parce que les rares défaites qu'ils avaient, il n'était pas là. Donc c'est un peu un espèce de talisman de cette équipe d'Espagne.
C'est obligatoire
de
reprendre.
Et donc voilà, et c'est quelqu'un de très apprécié par les plus anciens maintenant qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé lorsqu'il débutait au sein de la Roja.
Bon, et bien voilà pour ce qui est de ce match qui complétera donc ce groupe C, puisque le Portugal et le Maroc, je vous le rappelle, ont déjà joué et le Maroc a a été battu par le Portugal 1-0.
C'est vrai que le Maroc n'est pas encore éliminé. Il ne sera éliminé qu'à l'issue d'Espagne-Iran. Et si jamais le match n'avait pas lieu. Non, mais si le match n'avait pas lieu. Parce que tout résultat élimine le Maroc.
Il y a une petite possibilité encore, mathématiquement.
Bah, c'est d'annuler le match. C'est tout ce qui reste.
À l'heure où je parlais avec Moscou, il n'était pas éliminé. On lui enverra un petit message à Eric Mamrut. Mais bon, le temps que se dispute effectivement ce Iran-Espagne. Évoquons maintenant le match qui va se disputer d'ici une vingtaine de minutes. C'est ce Uruguay-Arabie Saoudite qui complète le groupe A. Et je vous le rappelle, hier soir se disputait Russie-Égypte avec à Saint-Pétersbourg cette belle victoire de la Zbornaïa sur le score de 3-1. On va y venir d'ailleurs à toute cette folie qui se répand du côté de la Russie. Mais pour l'instant, arrêtons-nous sur cette confrontation entre l'Uruguay et l'Arabie Saoudite. Hier, on parlait de l'Uruguay comme étant l'équipe d'Amérique du Sud qui s'est offert une victoire, même difficile, même à l'arraché. Elle aussi en fin de rencontre. Elle va se retrouver face à l'Arabie Saoudite, une Arabie Saoudite qu'on a vue, je vais pas être méchante, mais quand même très ou trop faible, Eric Rabessandratana.
Ah oui, non, trop faible. Et puis surtout, je pense qu'ils sont dépassés par le niveau de la compétition. Donc après, ils vont essayer de tirer leur épingle du jeu en faisant ce qu'ils peuvent. Mais contre l'Uruguay, qui a été. Alors j'ai été surpris par la prestation de Suarez, parce que Suarez, j'étais surpris de son niveau, mais vraiment à des années-lumière de ce qu'il doit présenter.
Ce qu'il sait faire surtout.
Ouais, c'est ça. Et
soit en méforme, soit.
Non, mais c'était incroyable. Soit il va réagir aujourd'hui. C'était presque incroyable. Ouais, franchement, c'était vraiment incroyable de se dire, mais comment il peut jouer à ce point, ouais. Et surpris, enfin pas surpris, mais agréablement surpris de Cavani, qui a au contraire a fait cet équilibre avec ce manque de Suarez qui a compensé un petit peu l'absence. Et donc ils ont toutes les armes pour.
Mais
pour,
ni l'un ni l'autre n'a marqué quand même. Ces deux super attaquants et super buteurs. Ah oui, ouais. Mais.
Suarez rate combien 3-4 occasions. Hein. Ouais. Énorme. Ouais, et Cavani tire sur le
super
poteau.
Coup franc, ouais. Mais parce qu'il a donné un bon ballon à Suarez aussi qui nous l'a bien mangé. Donc, ouais.
Mais l'Uruguay s'est retrouvé dans une situation face à cette équipe d'Égypte où il devait faire le jeu. Et il est pas du tout à l'aise dans ce registre parce qu'ils sont habitués, les Uruguayens, à subir et à procéder en contre. Donc là, ils étaient vraiment, on les voyait, parfois ils avaient le ballon, ils savaient pas quoi en faire. Et c'était assez désolant pour cette équipe de pas avoir du tout de vrais meneurs de jeu. On connaît deux grands attaquants qui sont des superbes contre-attaquants. Il y a des défenseurs qui sont hyper rugueux et hyper efficaces. Des milieux qui courent partout, mais il y a pas de créateurs. Donc là, quand ils doivent faire le jeu, eh bien, ils sont embarrassés. Ça risque d'être le cas d'ailleurs contre l'Arabie Saoudite, même si l'Arabie Saoudite me paraît un peu plus naïve, surtout en défense, que l'Égypte. Ah oui. Et que s'ils arrivent à marquer assez rapidement, ils pourront peut-être soigner leur différence de but. Mais il ne faut pas s'attendre à un festival de buts de l'Uruguay contre l'Arabie Saoudite comme l'a fait la Russie.
Pas de 5-0 tout à l'heure, Philippe Doucet.
Non, je rejoins ce que. Effectivement,
sauf si Suarez revient.
Sauf s'il marque 8.
Le Barcelonais.
Non, je rejoins Xavier sur le pronostic final. Par contre, sur le diagnostic. Le sélectionneur, il faut le reconnaître, Tabarès a essayé. C'est-à-dire qu'il a fait rentrer des jeunes et ils avaient des joueurs pour faire le jeu contre l'Égypte. Après, c'est paru un peu jeune, justement.
Un peu court.
Pas très décisif. Des jolis joueurs.
Des Arrascaeta, par exemple.
Oui, par exemple. Ouais. Et l'autre au milieu, je ne me rappelle plus, Vinicio, je perds le nom.
Vecino,
absolument. Et j'ai trouvé quelques joueurs de talent, mais Nandes également, mais encore jeune. Franchement, encore jeune. Et finalement, à l'arrivée, là où Xavier a raison, c'est que bon, ils ont essayé, ils avaient une équipe pour faire le jeu, ils ont essayé. Franchement, c'était pas très convaincant. Non. Et à l'arrivée, Tabarès, il a fait sortir les jeunes, il a fait rentrer des vieux. Et là, à l'ancienne, à la Gara, ils ont commencé à mettre la pression, mettre des corners dans les 6 mètres. Et l'Égypte a fini par lâcher.
Le plus drôle, c'est que celui qui marque, finalement, c'est un de ces jeunes, justement, de la fameuse génération 2013. Ils sont
jeune dans le style des anciens.
Il fait partie de cette génération 2013 qui a été finaliste de la Coupe du Monde des 20 ans contre la France de Pogba, Thauvin, Digne, Kondogbia, etc., qui avait perdu en finale et donc dont fait aussi partie Nandes, de Arrascaeta. Donc ils sont 6 ou 7, je crois, dans le groupe, mais comme le dit très bien Philippe,
ils sont encore un peu jeunes.
Ouais.
Ils n'ont pas encore la science ou l'expérience.
Je ne suis pas sûr qu'ils changent le style fondamental de cette équipe d'Uruguay. Parce que
en tout cas, sur la durée, ça m'étonnerait.
Oui, ça fait un siècle qu'ils jouent comme ça, donc ils vont avoir du mal à le faire évoluer.
Bon, mais en tout cas, l'Uruguay répond quand même souvent, pour ne pas dire toujours présente, hein, dans ces grandes compétitions mondiales. Et on verra si ce soir, eh bien, l'Uruguay glane une deuxième victoire. Prenons maintenant, eh bien, la direction du pays qui organise ce grand événement. Partons en Russie. Rossiya, miracle ou travail acharné, c'est un fait. La Zbornaïa est en tête, pour l'instant en tout cas à cette heure précise, du groupe A dans cette Coupe du Monde. L'équipe que l'on n'attendait pas, hein, à laquelle même nos confrères russes n'osaient croire. Cette équipe nationale de Russie a gagné les deux matchs qu'elle a disputés. Elle a inscrit déjà 8 buts. Alors hier soir, les Russes jouaient à Saint-Pétersbourg. Ils ont battu les Pharaons 3-1. La population, vous venez de l'entendre, est descendue dans les rues. Ça klaxonne, ça chantait, ça criait, et notamment sur la magnifique perspective Nevski dans cette très belle ville qui fut la capitale des Tsars et où se trouve Daniel Vallaud. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Alors Daniel, Saint-Pétersbourg, c'était la nuit blanche dans tous les sens du terme.
Oui, exactement, hein, puisque en effet la nuit ne tombe quasiment jamais en ce moment à Saint-Pétersbourg. Donc c'est l'occasion de faire la fête et les Russes ne sont pas privés. Hein, dès que le coup de sifflet final a été donné, ils se sont précipités dans les rues de la ville avec des drapeaux, avec des cornes brûles, et ils ont laissé exploser leur joie d'être, vous l'avez dit, quasiment qualifiés. Mais c'est vrai que c'était un petit peu inespéré ce résultat des Russes, qui étaient souvent accompagnés d'ailleurs de Brésiliens, parce que les Brésiliens vont jouer dans quelques jours à Saint-Pétersbourg. Donc une ambiance vraiment absolument incroyable dans cette ville de Saint-Pétersbourg, mais aussi dans tout le pays. Hein. C'est vraiment tout le pays qui a célébré hier soir cette victoire contre les Égyptiens et donc cette quasi-qualification pour les huitièmes de finale qui était inespérée il y a encore quelques semaines.
Oui, justement, Daniel, est-ce que on peut se demander, est-ce que c'est enfin l'enthousiasme, la contagion, disons, de l'esprit de fête qui tourne généralement autour des Coupes du Monde? Certains de nos confrères russes, par exemple, un site en ligne qui s'appelle Gazeta, parle d'un tsunami de joie enfantine apporté par le championnat, cette compétition dans les villes de Russie. Est-ce que ça va au-delà des villes hautes ?
Alors écoutez, je ne sais pas, parce que pour l'instant je me suis rendu que dans des villes hautes, mais il est certain que l'ambiance a complètement changé pour deux raisons d'ailleurs, hein, parce que d'abord il y a tous les supporters des pays étrangers qui apportent eux de l'enthousiasme, de la joie, et en particulier, et ça c'est absolument remarquable, les supporters des pays sud-américains qui ont fait souffler un vent de folie, en tout cas à Moscou, à leur arrivée. Et puis il y a ces deux victoires et ce renversement de tendance, entre guillemets, pour l'équipe de Russie qui est devenue populaire en quelques jours, alors qu'avant le mondial, elle était totalement dénigrée. Donc vraiment, l'ambiance a basculé. Avant le mondial, il n'y avait pas tellement d'engouement. On se demandait même par moments si les Russes allaient s'intéresser à cette compétition. Et là, vraiment, ça a complètement basculé. Et puis il y a quelque chose de très important, c'est que ces rassemblements de supporters dans le centre de Moscou, par exemple, ou dans le centre de Saint-Pétersbourg, c'est quelque chose de totalement impossible en temps normal, parce que en Russie, pour se rassembler comme ça, il faut demander une autorisation. En général, l'autorisation est refusée. Il y a une loi sur les rassemblements qui est très stricte. À partir de 3 personnes qui se regroupent dans l'espace public, les policiers arrivent et peuvent vous arrêter. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Il y a beaucoup de Russes qui se disent très contents de cette situation et qui estiment que voilà, ce mondial fait souffler un vent de liberté sur un pays qui en a peut-être un petit peu besoin en ce moment.
Oui, d'ailleurs, certains de nos confrères russes parlaient d'un renversement du rideau de fer. Et Novaya Gazeta écrivait même aujourd'hui « Tout Moscou danse et s'étonne elle-même à côté des supporters venus du monde entier. Mais bientôt, ils vont tous partir. Et ces mêmes policiers qui observent avec des sourires la folie des supporters vont sortir dans les mêmes rues pour taper sur les manifestants. Donc effectivement, c'est exactement ce que vous nous racontez, ce que vous avez vu, Daniel. Une question ici, Philippe, c'est vous allez toucher ça de très près d'ici quelques jours en Russie, mais c'est toujours intéressant et important que le pays organisateur aille loin dans la compétition.
Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On sait que, alors c'est peut-être moins important que lors de la CAN, par exemple, où là, la CAN, le nombre de spectateurs est directement induit par l'équipe locale. Si l'équipe locale n'est pas là, on a un mal de chien à remplir un stade et c'est très difficile. À la Coupe du Monde, c'est moins vrai. Tous les billets sont vendus. J'imagine que même si la Russie est éliminée avait été éliminée au premier tour, peut-être que les billets étaient déjà réservés pour les matchs suivants. Et puis, j'ai vu d'ailleurs dans leur programme, s'ils sont premiers, ils se déplacent un peu dans tous les pays, pas forcément les plus grands stades dans le pays, pardon, et pas forcément dans les plus grands stades, donc j'imagine que les places éventuellement seraient pleines. Mais en termes d'ambiance, évidemment, l'événement est toujours autour de l'équipe locale, plus le Brésil, plus 2-3 équipes qui font la magie de la Coupe du Monde.
Compétition.
Et l'équipe locale fait partie de cette magie, et le jour où l'équipe locale est éliminée, même si c'est la Corée du Sud ou le Japon ou un pays qui n'a pas vocation à gagner la Coupe du Monde, bah c'est un événement, voilà, le pays local tombe et puis tout le pays est triste, la fête continue et le pays est triste en même temps sur l'instant. Voilà. Non, ça fait partie évidemment des ingrédients de la Coupe du Monde. C'est pour ça qu'on est ravis en général que le pays organisateur se qualifie, même si on n'a pas d'atome crochu avec la Russie. Pour la compétition, c'est important, bien sûr.
Xavier.
Oui, non, mais je regardais les photos de mon ami Frangy qui était dans le stade de Saint-Pétersbourg hier soir, qui connaît bien Igor Strauss d'ailleurs de RFI. Et donc lui, il vit 6 mois de l'année en Russie et il me disait il y a encore 15 jours, mais les gens n'en ont rien à foutre de la Coupe du Monde, ils s'intéressent pas du tout.
Et vous avez raconté ça aussi, Daniel. Voilà.
Et là, tout d'un coup, il me dit, mais c'est la folie. C'est la folie. Je reconnais plus Saint-Pétersbourg. Hier soir, il était dans le stade, il m'a envoyé des live vidéo là. C'était du délire complet. Il me dit, ça y est, les gens se sont réveillés, ils ont compris ce que pouvait apporter la Coupe du Monde. La fête au quotidien, les rencontres avec les autres gens, et c'est un changement du tout au tout, succinct, presque inattendu. Et donc, par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est ce qui va se passer dans les villes de province, parce qu'effectivement, oui. Daniel nous parlait de Moscou,
de Saint-Pétersbourg.
Mon ami est à Saint-Pétersbourg. Dans les autres villes de province, il semble que c'est un peu de mal à décoller, que les Russes aient un peu de difficulté à suivre le mouvement, surtout dans des villes où il n'y a pas de vrai club de foot et donc d'intérêt pour le football comme dans les grandes métropoles.
Justement, vous allez vous déplacer, Daniel, puisque vous êtes notre élément qui se déplace dans la Russie, et vous partez d'ici peu pour Ekaterinbourg où va jouer la France.
Exactement. Donc c'est une ville qui est c'est la ville qui est la plus éloignée hein, des autres villes de ce mondial, aux portes de l'Oural et de la Sibérie. Et donc c'est effectivement ça va être intéressant de voir quelle ambiance règne là-bas. Mais c'est vrai que il y a une ville comme Saransk par exemple. J'ai discuté avec des Péruviens qui se sont rendus à Saransk, qui est quand même la plus petite ville du mondial avec 300 000 habitants. Ils m'ont dit je suis allé à Saransk dans le centre. Ville, c'est minuscule. Oui, voilà, il y a la résidence de Gérard Depardieu. Mais sinon, le centre-ville de Saransk, c'est absolument minuscule. Et les Péruviens qui se sont rendus là-bas ont halluciné parce qu'ils se sont retrouvés dans ce centre-ville. Ils m'ont dit, on était dans une ville péruvienne, il n'y avait que nous dans les rues de la ville. Donc, ça devait être assez incroyable. Et c'est vrai que l'ambiance dans les autres villes doit être différente. Il y a aussi un phénomène actuellement un peu plus politique. C'est la réforme des retraites qui a été annoncée le jour de la cérémonie d'ouverture mondial. Et voilà. Et ils ont aussi annoncé une augmentation du taux TVA au passage. Et donc,
c'est énorme.
Oui, c'est très très fort. Et il y a des manifestations qui ont lieu dans des villes non hautes de la Coupe du Monde. Il va y avoir une manifestation le 1er juillet. Alexei Navalny a appelé à cette manifestation. Il a pris soin de dire qu'il allait manifester dans les villes qui ne sont pas des villes hautes, donc pour respecter le mondial et puis les règles. qui devraient contre les rassemblements qui devraient être respectés, qui ne le sont pas en réalité.
C'est très intéressant. Eric Rabessandratana, quand on est joueur et quand on joue dans son pays une compétition comme celle-là, c'est évidemment on est porté aussi par son propre public et ça aide à se surpasser. C'est ce qu'on voit de la Zbornaïa.
Exactement. Et c'est grâce au résultat de l'équipe que toute cette effervescence a lieu. Et c'est pour ça qu'il faut noter.
Il y a un effet miroir.
Ben oui. Et en plus, c'est quand même assez surprenant parce qu'on n'attendait pas cette équipe de Russie à ce niveau-là.
Il y a des joueurs qui se révèlent.
Ben oui. Et puis surtout, moi j'ai aimé les Russes contre les Lyonnais en Coupe d'Europe parce qu'ils m'avaient vraiment impressionné. Et je me posais des questions. Je me dis, mais c'est pas possible. Ils ont une équipe nationale qui est quand même avec des bons joueurs et ils n'arrivaient pas à tirer
conclure, leur épingle.
Voilà. Et en fait, là, c'est comme s'ils avaient été transcendés par les conditions, comme quoi organiser la Coupe du Monde et avec le pays hôte, il est capable de se transcender et de trouver des résultats.
Ouais, c'est très important. Daniel, une dernière chose avec vous. La Russie, alors qui succombe l'effervescence de la Coupe du Monde, a succombé aussi à la mode des prédictions dans cette compétition. On se souvient très bien qu'en 2010, il y avait eu le fameux Poulpe, Paul le Poulpe, en Allemagne, qui était très doué pour dire ce qui allait arriver ensuite sur les pelouses. En Russie...
C'est il en déborde d'ailleurs.
Oui.
Trop de concentration, trop de pression. Je crois que trop de pression, il a explosé.
Alors, en 2018, c'est un chat, Daniel, que vous avez vu. Un chat, alors, blanc et sourd, le pauvre, qui s'appelle Hakim. C'est ça, c'est lui
Achille,
qui miaule.
Achille. C'est lui, je ne sais pas si c'est lui qui miaule. Lui s'appelle Achille.
C'est pas Guillaume en régie, mais c'est Jérémy Bessé, c'est pareil. Ils nous font des petites surprises en direct.
Oui, c'est Achille à Saint-Pétersbourg. En fait, ce qui se passe en Russie, c'est que chaque ville hôte a son animal totem et son animal devin. La presse internationale a plutôt remarqué Achille à Saint-Pétersbourg. Je ne sais pas très bien pourquoi. En tout cas, Achille, il est très bon parce que pour l'instant, il ne s'est pas trompé une seule fois. Il a prévu notamment la victoire de l'Iran contre le Maroc, ce qui n'était pas évident. Et pour l'instant, donc, il a 100% sur ses pronostics. Toutes les villes n'ont pas la même chance. Par exemple, avec Katrinbourg, où je me rends ce soir et où va jouer demain la France. Voilà. C'est un lémurien du zoo local qui a été choisi. Alors lui, pour l'instant, il s'est planté sur tous les matchs. Et d'ailleurs, c'est à tel point qu'ils ont décidé d'inverser la prédiction. C'est-à-dire que c'est nous qui interprétons mal son oracle. Et donc,
il va vers le mauvais.
Voilà, les Lémuriens, en fait, se sont-ils dit, ils choisissent le perdant.
C'est un gros malgache, les Lémuriens. Ils donnent que les résultats malgaches.
Et voilà, Eric Rabessandratana, dans notre studio, a des origines malgaches. C'est pour ça qu'il se permet cette petite remarque, Daniel.
Sur le Lémurien.
C'est bon, ça. Et alors, il y a un chat, un Lémurien, il y a quelque chose d'autre, un éléphant, non?
Il y a une otarie à Sochi. Je crois pas qu'il y ait d'ours, non.
Non.
Je ne sais pas. En tout cas, il faudra surveiller demain la prédiction du Lémurien et prier pour qu'il ne choisisse pas la France. Enfin, si on le
souhaite. Oui, bien sûr. Bon, en tout cas, il y a de l'ambiance dans votre pays. Ça change apparemment et quand on arrivera, ça sera bien chaud. Merci beaucoup, Daniel Valo, et bon voyage alors vers la Sibérie. Mais
non, c'est pas la Sibérie.
Non, il s'arrête avant. Non, mais il l'a dit tout à l'heure. C'est aux portes de la Sibérie.
Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. C'est le pied de l'orage.
Merci, à bientôt.
Merci beaucoup, Daniel Valo, d'avoir été en direct avec nous. Et bien voilà, cette ambiance quand même, elle commence
c'est
à monter.
C'est la ville où le tsar a été assassiné, je crois.
Absolument.
Hein. Nicolas II, après la révolution bolchevique. Ouais.
Dans une cave.
Sympa.
Très sympa. Yekaterinbourg, que les soviétiques avaient rebaptisé Sverdlovsk.
Du nom de celui qui avait donné l'ordre d'assassiner Nicolas II. C'est extraordinaire quand même. C'était un militaire qui avait donné, c'était l'homme qui avait donné l'ordre. Et la ville s'est appelée comme ça pendant de 46 à 90.
Quand même.
C'est pas rien.
Jusqu'à la perestroïka.
Et c'est une ville interdite en plus aux étrangers parce qu'il y avait des véritables drames. Mais c'est une ville très industrielle et l'armement, il y avait beaucoup d'armement là-bas et des expériences chimiques un peu qui ont mal tourné d'ailleurs pour certaines. Un peu loin des yeux.
Voilà. De l'autre côté de l'Oural, c'était plus discret.
Exactement.
C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup de nous avoir préparé aux deux matchs qui viennent dans l'après-midi. Alors n'oubliez pas, nous sommes en direct à la sortie des matchs à 21h10 en temps universel. Et donc vous pouvez nous suivre évidemment sur RFI, vous pouvez aussi nous regarder à travers le Facebook Live. Merci messieurs, merci Eric Ravessandratana, vous reviendrez évidemment durant cette compétition. Merci aussi à David Finzel et Pierre Guérin qui m'ont aidé à préparer l'émission. Jérémy Bessé était à la réalisation. Et donc à tout à l'heure.